clin d'œil.
Clin d'œil.
Chronique de Nat, extrait du magazine régional À la bonne heure.
Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ? À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
12h10, vous êtes à l'écoute de Fréquence Mistral. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Exceptionnellement, ce mercredi, pas de magazine À la bonne heure en ma compagnie. Mais je vous propose de le retrouver demain en compagnie de Yacine depuis l'antenne de Marseille. À la place, aujourd'hui, je vous propose trois rediffusions. L'une consacrée à Julia Hill, écologiste américaine, qui a vécu 2 ans à plus de 60 mètres du sol. Une aventure et une femme absolument incroyable. Cette chronique sera suivie d'une lecture que j'avais réalisée dans un extrait du livre Chronique d'hiver de Paul Auster afin d'annoncer en septembre dernier et dans le cadre du festival littéraire Les Correspondances la lecture de Charles Berling, Paul Auster en toutes lettres au théâtre Jean Le Bleu. Il était une fois la femme. Julia Lauren Hill, connue sous le nom de Julia Butterfly Hill, née en 1974, est une militante écologiste américaine. Elle est principalement connue pour avoir vécu 738 jours à Renwood, en Californie, en haut d'un séquoia d'environ 1000 ans. En 1997, Julia Butterfly grimpe à plus de 55 mètres de hauteur dans un séquoia géant pour une occupation de quelques semaines. Son objectif est d'empêcher la compagnie Pacific Lumber de procéder à une nouvelle coupe à blanc de la forêt alentour. Elle ne se doute pas encore qu'elle va vivre ainsi durant plus de 2 ans. Alors rien ne prédestinait cette jeune américaine issue d'une famille pieuse et très pauvre, devenue mannequin à l'adolescence pour arrondir ses fins de mois, à être le visage de la lutte contre la déforestation à la fin des années 90. Pourtant, du haut de Luna, un séquoia géant, elle est parvenue à mettre en lumière le drame qui se jouait à ses pieds. La gestion désastreuse d'une forêt millénaire, des coupes à blanc, provoquant des glissements de terrain mortels pour les habitants aux alentours, ainsi que la mise en péril d'espèces menacées. Julia, à 22 ans, est percutée par un 4x4, elle met 2 ans à s'en remettre et décide alors de donner un sens à sa vie, en entamant une quête spirituelle. L'argent de l'assurance en poche, la jeune femme veut faire le tour du monde. Elle n'ira pourtant pas très loin. Arrivée sur la Locos en Californie, elle est époustouflée par la beauté d'une forêt de séquoias qui l'attire irrésistiblement. Son périple s'arrête net quand elle apprend que l'entreprise Pacific Lumber a prévu d'abattre l'entièreté des arbres millénaires de cette parcelle alors qu'il n'en subsiste déjà plus que 3%. Le reste ayant servi pour le bois d'œuvre ou à la fabrication de meubles de jardin, relate-t-elle. C'est une révélation. Il faut qu'elle se batte pour la préservation de ce lieu hors du commun. Les groupes écologistes présents sur place sont tous défaitistes et ne l'acceptent pas en leur sein. Elle n'a jamais milité de sa vie et ignore tout de la protection de l'environnement. La seule chose qu'elle a, c'est une foi indéfectible en sa vocation. Alors, quand l'opportunité de prendre le relais d'un groupe installé au sommet d'un séquoia destiné à finir en chair à pâté se présente, elle prie, écoute son instinct et fonce. Elle découvre alors Luna, 60 mètres de haut, perchée au sommet d'une falaise près de la crête d'une montagne escarpée. À 55 mètres du sol, une plateforme de 3 mètres sur 2 accueille le strict nécessaire pour les bénévoles qui s'y pressent nuit et jour pour empêcher que l'entreprise Pacific Lumber abatte l'arbre. Dans sa plateforme, au perché, son quotidien est rythmé par les incessants va-et-vient des hélicoptères de la Pacific Lumber qui veulent la déloger, les tentatives d'intimidation des employés de la firme, les incendies et autres épandages de napalm qui l'empoisonnent. Chaque jour est une épreuve. Julia aura, durant tous ces longs mois, à affronter le climat, la neige, les tempêtes, d'autant plus qu'arrive la tempête El Niño qui manque de la tuer. Elle devra également dompter une solitude extrême et l'envie de descendre de là au plus vite pour aller siroter par exemple un thé bien chaud sous sa couette. Mais sa détermination et sa foi vont l'aider à tenir le coup et même au-delà, en faisant d'elle, et bien malgré elle, une icône écolo et une figure médiatique. Julia Hill ne faiblit pas et trouve refuge dans la prière pour se recentrer sur son objectif, sauver Luna et la forêt des séquoias des griffes de l'entreprise. Petit à petit, les médias s'intéressent à ce brin de femme à la volonté d'acier. Les interviews pleuvent et des photographes viennent l'immortaliser dans son nid de fortune. Pour tous, elle représente David contre Goliath. Malgré tout, les négociations avec la Pacific Lumber avancent difficilement. Julia Hill refuse de descendre tant que ses termes ne seront pas respectés et la situation se corse de jour en jour. Au bout, elle ne sait plus vers quel sein se tourner. Arrive alors à un point de non-retour. Un de ses camarades est tué par un bûcheron qui abat un arbre qui vient de s'écraser sur le militant venu lui expliquer qu'il endommageait une zone protégée. Cet événement tragique la terrasse, mais lui permet de trouver la force de continuer son combat. Au terme de plusieurs mois de négociations, la Pacific Lumber et Julia Hill tombent enfin d'accord. Luna et une zone tampon autour de l'arbre seront protégées, mais la militante ne peut plus jamais pénétrer illégalement dans une propriété appartenant à l'entreprise et encore moins grimper dans un de ses arbres. Quand j'étais là-haut, j'ai compris que c'était comme si les arbres m'avaient dit « Julia, nous avons besoin de traducteurs parce que les gens ne nous comprennent plus. Tu dois traduire pour nous. » Je me suis dit que je ne descendrai pas tant que je n'aurai pas tout fait. Tout mon possible, alors que mon troisième hiver là-haut s'approchait, mes dents commençaient à s'infecter sérieusement. L'infection persistait. Elle arrivait dans mon cerveau et ma colonne vertébrale. C'était dangereux. Une journaliste a découvert cela et est allée voir le directeur de la compagnie forestière pour lui dire « Elle va mourir là-haut si vous ne faites rien. » Ils ont décidé de boucler les négociations. Le 18 décembre 1999, Julia Hill met enfin un pied à terre. Elle est effrayée et se demandait comment elle allait pouvoir vivre sans cet arbre. Elle n'est plus la même, c'est une survivante, mais qui a malgré tout conservé une certaine force mentale pour faire porter sa voix dans le monde entier et entreprendre d'autres actions. En novembre 2001, des vandales tentent de couper Luna à la tronçonneuse et l'entaillent fortement. La nouvelle dévaste la militante, mais l'arbre survit et encore aujourd'hui, il se dresse fièrement au sommet de la falaise. Son ancienne locataire est maintenant âgée de 46 ans et parcourt le monde en donnant des conférences pour éveiller les consciences sur l'écologie. Après cette occupation de l'arbre Luna, Julia devient conférencière, tenant plus de 250 conférences par an. C'est devenue aussi une auteure à succès avec la publication de plusieurs ouvrages et cofondatrice de la fondation Circle of Life. En 2002, elle est emprisonnée en Équateur après s'être opposée à la construction d'un pipeline devant traverser une forêt vierge, habitat d'espèces d'oiseaux menacées. Julia Butterfly Eye a écrit un livre de sève et de sang qui raconte ses 2 ans hors sol. Depuis, le réalisateur belge Henri de Gerlache a signé le documentaire « Sœurs de combat » comme un écho retentissant des jeunes femmes partout dans le monde aujourd'hui se sont levées et rêvent, chacune à leur manière, de protéger le vivant et la planète de la destruction en marche. Ce documentaire, à voir ou à revoir, éclaire l'engagement actuel d'Anouna, d'Adélaïde, de Louisa, de Lee, de Léna et de Mitzi. Leur parcours s'entremêle comme les racines des arbres, comme des sœurs qui se connaissent sans le savoir. Son expérience, peut-être pouvons-nous l'appliquer à d'autres situations, réaliser un rêve par exemple professionnel, surmonter une épreuve personnelle ou relever un défi. Apprendre à faire preuve de ténacité, de patience et de détermination face à l'adversité. Surmonter les obstacles et ne pas se laisser décourager par les échecs. S'adapter, remettre en question ses méthodes et faire preuve de créativité. Faire preuve également de flexibilité pour trouver de nouvelles solutions lorsque les anciennes ne fonctionnent plus, par exemple. Comme quoi, avec du courage, de la ténacité et des convictions, on arrive à faire des miracles. Lorsque la fleur s'apprête à s'ouvrir, c'est avec une telle volonté que malgré son apparente fragilité, aucune force extérieure ne pourra l'en détourner. Rainer Maria Rilke.
Fréquence Mistral, c'est votre radio régionale des Alpes du Sud.
Vous avez une association, un événement à annoncer, un projet où vous êtes passionné? Vous œuvrez dans la culture, le social, l'intégration, l'éducation, l'environnement, le développement local? Vous êtes acteur du territoire? Venez en parler, Fréquence Mistral vous accompagne. Extrait de Chronique d'hiver de Paul Auster, sorti en 2013. Encore de la neige aujourd'hui, et quand tu sors du lit et t'approches de la fenêtre, Les branches de l'arbre dans le jardin de derrière sont en train de devenir blanches. Tu as 63 ans. Il te vient à l'esprit que, dans le long voyage qui t'a mené de l'enfance à aujourd'hui, rares ont été les moments où tu n'as pas été amoureux. 30 ans de mariage, oui, mais dans les 30 années qui ont précédé, combien de coups de foudre et de passion, combien de flammes et de tentatives de conquête, combien de délires et de folles embardées du désir. Dès le début de ta vie consciente, tu as été un esclave consentant d'Eros. Les filles que tu as aimées, jeune garçon, les femmes que tu as aimées, devenues hommes, chacune différente des autres, quelques-unes rondelettes et d'autres maigres, quelques-unes petites et d'autres grandes, quelques-unes portées sur la lecture et d'autres sur le sport, quelques-unes moroses et d'autres extraverties, quelques-unes blanches, d'autres noires ou d'autres encore asiatiques. Mais rien de ce qui restait en surface n'avait d'importance pour toi. Ce qui comptait, c'était la lumière intérieure que tu détectais chez une femme, l'étincelle de singularité, le flamboiement du soi révélé. Et cette lumière la rendait belle à tes yeux, même si d'autres étaient aveugles à la beauté que tu percevais. Et alors, tu brûlais d'être avec elle, près d'elle, car la beauté féminine est une chose à laquelle tu n'as jamais pu résister. Cela remonte à tes premiers jours d'école, à la classe de maternelle où tu es tombé amoureux de la fille à la longue queue de cheval blonde. Et que de fois tu t'es fait punir par Mademoiselle Sanquist pour t'être éclipsée avec ta petite amoureuse, pour vous être glissés tous les deux dans un quelque coin où vous faisiez quelques polissonneries. Mais ces punitions ne te touchaient pas parce que tu étais amoureux. Tu étais déjà un amant insensé et ça n'a pas changé. Chronique d'hiver de Paul Auster, qui est sans doute le livre qui a ma préférence. 30 ans après l'invention de la solitude, Paul Auster pose sur son existence le regard du sexagénaire qu'il est devenu, loin cependant du journal intime ou du classique récit autobiographique. Cette chronique d'hiver aborde la méditation sur la fuite du temps sous l'angle du compagnonnage que tout individu entretient avec son propre corps. C'est en effet de respiration, de sensation, de jouissance ou de souffrance, d'épiphanie charnelle et de confrontation plus ou moins traumatique avec la matière du monde qu'il est question à travers l'évocation à la deuxième personne d'un simple petit Américain du nom de Paul Auster, né dans l'immédiat d'après-guerre et requis d'apprivoiser les espaces et le temps qui lui sont imparti pour saluer cet immense auteur que toute la critique considérait comme le plus grand français des écrivains américains, l'acteur Charles Berling a lu des extraits de sa correspondance avec Coetzee, prix Nobel 2003 et du Carnet Rouge, émaillé de quelques-unes de ses poésies en septembre dernier au théâtre Jean le Bleu dans le cadre du festival littéraire Les Correspondances à Manosque. Paul Auster nous a quittés, vous le savez, le 1er mai 2024. Paul Auster, icône littéraire new-yorkaise. Sa trilogie new-yorkaise, justement, parue en 87, le propulse sur la scène littéraire internationale et l'associe définitivement à la mégapole qu'il n'aura de cesse de réinventer dans ses livres et ses films. Nous passons notre temps à imaginer des histoires, nous vivons avec ça. Le réel et l'imaginaire ne font qu'un. Les pensées sont réelles. Même les pensées de choses imaginaires, explique l'un de ses personnages dans Seul dans le noir.